peux vous inviter de ouvrir vos Bibles à Ésaïe chapitre 9. Pendant ces trois dimanches jusqu'à le 25, je veux souligner ce que cette saison existe pour souligner. C'était l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'incarnation devrait être peut-être le mot-clé pour vous quand vous parlez de Noël. C'est pas le Père Noël, pas les cadeaux qu'on s'échange entre nous, mais c'est le fait que Christ, Dieu, descend sur cette planète, une petite entrée des milliards, a décidé de venir et de traiter les problèmes de l'humanité. Donc, le verset que nous avons, et j'avais mis aussi 5 et 6, que peut-être on peut le lire, j'ai décidé, je ne pourrais pas traiter le passage. C'est un passage absolument immense. Ça arrive assez fréquemment que je commence, début de la semaine, de regarder, de lire et de réfléchir et de méditer un passage, et ça s'accumule en sens, obligé de diviser et de savoir quoi ne pas dire. Et donc, parfois, ça termine par un peu de confusion. C'est pour cela que je hésite même d'utiliser le PowerPoint aujourd'hui, parce que j'ai fait plusieurs changements. J'ai deux fils qui sont prédicateurs, le premier depuis 20 ans. Et il m'avait convaincu de changer, d'utiliser PowerPoint, ce que je suis content de le faire. Tu peux tourner ça un tout petit peu. Voilà. Parce que nous sommes pas tous des francophones, moi-même inclus. Nous ne sommes pas tous très connaissants de la parole de Dieu, de la Bible. Et ça aide énormément. Si ce n'est pas une distraction qui se vient, souvent ça peut devenir pour le prédicateur. Et en tout cas, ce que je voulais juste souligner dans ce passage, verset 1, que je lirai, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres, venant de chanter, n'est-ce pas, voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. » Nous voyons ténèbres, nous voyons mort, une lumière resplendit. Une chose que nous voyons, on voit déjà, quand nous traversons la ville de Bordeaux et les environs, c'est de voir la lumière partout. Je dis souvent, quand je rentre à la maison, 5 semaines avant ou 6 semaines avant Noël, « Chérie, tu sais, à Gradignan, ils sont déjà en train de faire des lumières à travers la ville. » Il y a des bougies, il y a plein de choses lumineuses. Pour le monde, c'est décoratif, ça c'est fait la gaieté. Mais ce qui est vraiment vrai, qu'ils ne savent pas, c'est que les lumières sont symboliques de plein de passages à travers la Bible, y compris notre verset ici. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et la lumière est une chose qui est toujours associée avec Noël, Dieu avec nous. Et quelles sont les ténèbres, en fin de compte? Parce que les ténèbres est une parole qui est utilisée à travers la Bible, même Matthieu, quand il parle de, du ministère de Jésus, il cite ce même verset en chapitre 4, verset 16 de Matthieu. Il cite le même verset que Ésaïe avait mis en chapitre 9. « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Dans le contexte, vous savez, si vous aimeriez juste regarder, jeter un coup d'œil à Matthieu chapitre 4, c'est une suite immédiatement après la tentation de Jésus dans le désert, verset 1 de chapitre 4, et il réussit dans cette lutte immense. Nous oublions parfois de voir l'intensité de ce combat que Jésus a eu dans le désert. Nous parlons assez souvent de l'ange à Gethsémané qui venait auprès de Jésus dans le moment très intense pour le protéger, le garder. C'était aussi ce qui s'était arrivé dans cet instant. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Il était tenté par le diable, le moment le plus faible de sa vie. Et puis, nous lisons en verset 11, « Alors le diable le laisse, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. » Jésus était faible. Jésus n'a jamais une seule fois péché, mais il avait toutes les faiblesses de l'humanité sans le péché. Faiblesse encore, faiblesse même psychiquement, troublé jusqu'au point où il craquait presque. On dirait sans péché, attention, mais il a subi tous les épreuves de l'humanité. Il était servi par les anges pour qu'il reprenne sa force. Et verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, donc Jean-Baptiste maintenant, le cousin de Jésus, le dernier prophète qui allait précédé Jésus-Christ est maintenant mis en prison. Jésus quitte Nazareth. Il vint demeurer à Capernaüm, situé auprès de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Zabulon et de Nephtali, si vous avez vos Bibles ouvertes, c'est le verset 1 où il va dire maintenant, afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par Ésaïe le prophète, deux points, ouvrez les guillemets, verset 1 de Ésaïe 9. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà de Jourdain, c'est-à-dire dans l'extrême nord, et de la Galilée des païens, virgule. Prochain verset. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Très intéressant que contextuellement, Zébulon et Nephtali, les deux tribus en Israël qui étaient assaillis et attaqués par les Assyriennes, avant tous les autres, qui ont souffert énormément. C'était le pays où Jésus a passé toute sa jeunesse, où Jésus a fait la plupart de ses miracles, où il a donné la plupart de ses paraboles. Une lumière existait déjà ici, qui ne le savait pas, qu'il aurait rejeté s'il le savait. Il soupçonnait, il le savait en fin de compte. J'aurais dû dire, Romains chapitre 1er montre ce principe de l'humanité qu'il y a une certaine connaissance indisputable à l'intérieur qu'on supprime. On supprime la connaissance qui ne nous intéresse pas. On supprime la connaissance qui risque de traverser notre agenda, de croiser notre agenda. Et ce qui s'était arrivé ici, personne n'était prêt d'accepter la lumière. Il marchait dans les ténèbres, mais la lumière arrive là. Et donc, nous lisons la première chose tout de suite après cette prophétie, y compris la prophétie qui est notre texte. Qu'est-ce que c'est, en fin de compte, les ténèbres? Quand la Bible parle de ténèbres, la Bible parle de deux choses. C'est un mot qui apparaît maintes fois. La plupart du temps, ce n'est pas les ténèbres à la fin de la journée sur la planète, c'est là aussi. Mais bien plus souvent que non, le mot ténèbre est appliqué et impliqué dans l'état spirituel des personnes. Les ténèbres est un mot qui est montré pour le mal qui se passe dans le monde. Le monde est plein de mal. Le monde est plein de violence. Le monde est plein de souffrance. Et nous le savons. Ça, c'était parler dans les ténèbres. Et deuxièmement, l'humanité parle de est ignorante. Le mot ténèbres parle de l'ignorance de l'humanité. Quant à notre capacité de vaincre ce mal. Donc, encore deux autres versets. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, ceux qui changent des ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, la douceur en amertume. On ne peut pas changer vraiment le ténèbre en lumière et la lumière en ténèbres, mais dans sa tête on peut le faire, dans la société et les règles acceptées on peut le faire. Le cœur humain est prêt à changer et tordre la justice et la bonté en faveur de ses désirs noirs, de ses désirs anti-Dieu. Malheur à ceux qui font ça, ils perdent leur capacité de comprendre, ils sont dans l'ignorance. Jésus disait par rapport à ses disciples et par rapport au mal qui pourrait leur arriver, « Heureux seriez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous dira faussement et de vous faire toutes sortes de mal à cause de moi. » Le mal existe, on reçoit le mal, le chrétien est maltraité, il souffre. Le mal est toujours ce qui fait du mal. Ce qui fait du mal. Nous n'avons pas été créés pour le mal. Et souvent, nous voyons, même dans des anciennes cathédrales, ces images qui ont été faites depuis le Moyen-Âge et même début du Moyen-Âge, parfois. Et cet dualisme qui dit que l'éternité, la bonté éternelle et le mal éternel sont en train de se battre, et parfois le mal réussit contre le bien, et parfois le bien réussit contre le mal. Voyez-vous le problème avec cette mentalité de dualisme? Le mal est éternel. La bonté est éternelle. Les deux sont des forces qui se tirent depuis l'éternité passée et probablement jusqu'à l'éternité à venir. La Bible dit le contraire, n'est-ce pas? Le mal n'est rien que le bien tordu. Dieu n'a créé que le bien. Tout ce que Dieu a créé, c'est bien. Le mal dans l'esprit de Lucifer quand il veut attaquer Dieu, quand il veut dérailler son peuple, c'est de le convaincre que le bien est mal et le mal est bien, mais il n'y a rien que du bien. Et donc de le convaincre que rien de mal si vous faites tout ce que vous voulez, parce que tout est bien, dans les limites dans lesquelles Dieu a créé les choses. Le feu est bien pour faire cuire nos repas, mais le feu hors des limites puisse détruire la maison dans laquelle on cuisine, n'est-ce pas? L'eau est bien pour se baigner et pour boire, mais l'eau peut aussi noyer une personne. Le sexe est quelque chose de merveilleux que Dieu a créé, rien que du bien, mais mal utilisé en dehors des limites, détruit, tue, mal. Satan torde. Le jour arrive où ce qui est tordu sera remis en place. Le mal n'existerait plus comme le mal n'existerait pas. N'existait pas. Il existait après le péché. Donc, deuxième verset pour la deuxième chose. L'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 4, verset 18, ils ont, c'est-à-dire nous avant de connaître le Seigneur. Dans ce passage, il est en train de dire, ne vivez pas comme eux, comme vous étiez avant. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. J'ai une citation, si je peux le trouver, oui, par rapport à une chose que vous pouvez trouver sur l'Internet, dans quand les gens parlent de la signification de Noël, une chose que j'ai lue disait, la signification de Noël, c'est que l'amour va triompher et que nous allons pouvoir mettre en place un monde de unité et de paix. Voilà. La signification de Noël, c'est que l'amour va triompher, quoi que ce soit l'amour, et que nous pourrons, nous-mêmes, l'homme, l'humanité, mettre en place un monde de unité et de paix. Autrement dit, nous avons la lumière à l'intérieur de nous, nous avons la capacité, en tant qu'être humain, de dissiper les ténèbres. Nous pouvons vaincre la pauvreté, la violence, l'injustice, la méchanceté. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons créer un monde de unité et de paix. Ça, c'est la mentalité dans laquelle nous sommes éduqués et formés et enseignés à vivre dans le monde. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui pense comme ça. Il y en a beaucoup qui sont des philosophes qui sont tellement déprimés. Il y a des philosophes qui sont terminés par se cloîtrer dans une maison entièrement déprimée, sans Dieu, sans aucun espoir, capacité intellectuelle de raisonner ce qui viendrait par rapport à un être. Un monde sans un créateur. Je crois que c'est la prochaine chose. J'aimerais bien que... Oui. Écoutez, Bertrand Russell, vous connaissez, si vous avez étudié un tout petit peu de philosophie, vous connaissez cette personne dans le dernier siècle en Angleterre, qui disait, le monde que la science nous présente pour croire est... Et c'est moi qui avais changé... fait des espaces pour mieux lire que l'homme est le produit des causes qui n'avaient aucune prévision quant à la fin qu'elles atteignent, que son origine, sa croissance, ses espoirs, ses craintes, ses amours, ses croyances ne sont que le résultat des collocations accidentelles d'atomes, que aucun feu, aucun héroïsme, aucune intensité de pensée, de sentiment ne peut conserver un individu au-delà de la tombe. Que tous les labeurs des siècles, toute la dévotion, toute l'inspiration, toute la clairvoyance de génie humain sont destinés à l'extinction dans la grande mort du système solaire. Et que tout le temple humain, majuscule T, majuscule H, le temple dans lequel l'humanité s'adore, oui, s'adore eux-mêmes, que tout le temple humain des réalisations de son humanité doit inévitablement être enterré sur les débris d'un univers en ruine. Conclusion, seulement dans l'échafaudage de ces vérités, les vérités viennent d'annoncer, seulement sur le fondement ferme d'un désespoir inébranlable, l'habitation de l'âme peut désormais être construite en toute sécurité. C'est-à-dire, vivre dans la fantaisie que tout va aller bien, c'est dangereux. Ce ne serait pas le cas. Dis-lui, à moins que vous soyez entièrement réaliste, que le désespoir est la fin de tout, vous ne serez pas en sécurité. Ça a l'air négatif, n'est-ce pas? Ça a l'air vraiment un peu pas intéressant pour la plupart de moi. Et c'est pour cette raison, entre autres, que beaucoup dans la philosophie et beaucoup dans le monde actuel fait de leur mieux de ne pas penser aux choses. Il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a aucun créateur devant qui nous sommes redevables. Il n'y a aucun créateur qui dirige quoi que ce soit. Ce que je suis en train de dire moi-même, c'est le résultat de suite des choses qui ont été programmées à travers des siècles et des siècles, et que maintenant ils sont en train de sortir. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Et c'est ça la manière de... Et puis, Noël arrive pour annoncer quelque chose de terrifiant. Pour ceux qui refusent Dieu, la situation du monde est pire que vous en pensez. J'aurais voulu juste mettre une chose à la phrase. Noël arrive pour dire, l'humanité, vous qui pensez positive, la situation est beaucoup pire que vous en pensez. Et deuxièmement, vous n'avez pas la sagesse, vous n'avez pas la lumière en vous de vous rendre capable de trouver la solution. C'est-à-dire, vous êtes un peuple qui marche dans les ténèbres. Et à moins que quelque chose arrive pour que vous soyez libérés de ces ténèbres, il n'y a aucune solution, c'est fini. Ah non, il ne faut pas penser comme ça. Pensez positif. Oui, les positivistes pensent comme ça parce qu'ils savent que s'ils prennent le temps de réfléchir comme Bertrand Russell et comme d'autres Voltaire et comme d'autres philosophes ont terminé par faire, ils vont terminer par devenir fous. Donc, ils rejettent toute idée parce que primordialement, je suis l'empereur de mon destin. C'est moi qui décide. C'est moi qui sera indépendant, autonome, éventuellement, de toute autorité. Soumettre devant quelqu'un à qui je suis obligé de dire « Oui, monsieur, ou oui, seigneur, je ne fais que ta volonté. Je laisse ma volonté à... Non. Impensable. Rien n'est plus terrifiant de l'esprit humain, humaniste, que ça. Et la Bible nous dit, on est dans les ténèbres. On a l'intelligence obscurcie. On voit le mal partout. Et on dit toujours avec un ton optimiste, parce que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut dire pour impressionner les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui relâche. Je vais, malgré les apparences, ils ont une foi très intense sur ce qu'ils acceptent comme l'alternative à la soumission à un bébé né en Bethléem qui se dit « Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La lumière, le peuple marche dans les ténèbres. Qu'est-ce que c'est la lumière? Parce que ce peuple voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi, juste premier chapitre de Jean. Combien de fois nous voyons ce mot « lumière » pas simplement un mot, c'est une personne qui était décrite. Jean chapitre 1er. Au commencement, ça commence comme Genèse, n'est-ce pas? Genèse 1:1, au commencement, Dieu. Jean 1:1, au commencement était la parole. Ceux qui connaissent la Bible savent que la parole est un autre nom pour Jésus. Il va même dire en verset 14, qui c'est cette parole? Mais cette parole existait au commencement. Elle était avec Dieu. Cette parole n'existait pas à partir de Noël, il y a 2000 ans. Cette parole existait au commencement. Si vous me permettez, je vais mettre les mots, le mot de Jésus, où vous, en tant que chrétien, vous connaissez comment ça s'applique. Ce n'est pas un changement du tout. Au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu. Jésus était Dieu. Jésus était au commencement avec Dieu, répété. Toutes choses ont été faites par Jésus. Rien qui de ce qui a été fait n'a pas été fait sans Jésus. En Jésus était la vie. Et la vie était quoi? La vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Le monde a reçu cette lumière. Ils ont vu, enfin, le monde a entendu cette lumière, ils ont vu cette lumière, mais ils n'avaient pas reçu. On a vu ça dans le verset 5. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Ce qu'il venait, on ne peut pas éviter la présence de lumière. Si vous êtes dans les ténèbres, dans une pièce sans lumière, et quelqu'un met la lumière, vous êtes incapable, à moins que vous fermiez les yeux et rejetez la lumière, vous êtes incapable de ne pas reconnaître la présence de lumière. Ce que Jean a voulu que nous comprenions par rapport à la venu de Jésus-Christ, la première fois, dans le nord de Galilée, où Jésus passait la plupart de sa vie, juste avant sa crucifixion, où il rentrait pour aller à Jérusalem. Il était à plusieurs reprises à Jérusalem, mais il faisait son ministère pour la plupart dans le nord, dans le pays qui était méprisé, dans le pays qui était regardé comme le bout du monde où les gens pas intelligents vivaient. Il prend ses délices de travailler comme ça, de se présenter à ce monde dans la scène d'une petite jeune fille qui vivait dans la pauvreté, qui devait voyager à Bethléem, qui ne pouvait pas trouver un hôtellerie, qui est née dans une crèche. Oh, crèche, c'est mignon. Non, crèche, c'était une boîte où on donnait à manger les animaux. Et puis Jésus se présente comme ça. Il se présente au... Les anges se présentent au berger. Berger, la chose sur le bas de l'échelle du respect de l'humanité. Vous ne direz jamais, vous savez ce que je fais? Moi, je suis berger. Ah non, non, vous cacherez le fait que vous êtes berger si vous allez en ville. Vous ne pouvez pas cacher parce qu'ils étaient rudes, ils étaient pas trop intelligents, ils n'étaient pas formés dans des écoles, ils étaient des gens très très simples. Les anges, la seule fois que nous voyons une multiplication des anges devant le monde, c'était aux bergers. Il n'y a que des bergers qui l'ont vu. Il n'y a que des personnes mises à côté par la société. Et Jésus, quand il était méprisé par les pharisiens parce que il se présente, il mange même avec des gens de mauvais caractère, avec des prostituées, non parce qu'ils cherchaient leur service du tout, parce que eux, ils se sont changé leur vie, ils sont venus à Jésus, ils se sont prosternés devant lui, ils ont fait comme la prostituée venait dans la maison de Simon et commençait à pleurer et à laver les pieds de Jésus avec ses larmes, comme nous avons vu il y a quelques semaines. Une prostituée avant, non plus. Et nous avons du mal à vraiment penser parce que nous sommes infectés aussi par l'impureté de penser que quelqu'un pourrait rester pur et de permettre ce que Jésus permettait. Ah non, Jésus était la lumière, il était pur, il était rejeté par ceux qui ne voulaient pas la lumière. En Jean chapitre 3, vous pouvez même tourner en Jean chapitre 3, parce que Jean 3, 19 suit le verset le plus connu. On parle de la lumière. On va commencer avec Jean chapitre 3, verset 16, si vous voulez tourner avec moi. Car Dieu, ou bien Dieu, a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Ésaïe 9, 5. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, point. Continue la pensée. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Pour nous, un fils est né. Il n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien sûr, vous vous entrez dans une pièce sombre, la première chose que vous allez faire pour que vous commencez à travailler, c'est de mettre de la lumière. Et dès que la lumière est là, vous voyez clair. Jésus est venu, lumière du monde. Tout est éclairé par sa présence. Qu'est-ce qu'ils font? Mais celui, verset 18, qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Attention, il n'est pas venu pour juger. Donc, la lumière s'allume, fait ce que la lumière exige, tu ne seras pas jugé. Parce qu'il n'est pas venu pour juger. Il est venu au contraire pour ceux qui sont jugés dans les ténèbres, pour qu'ils ne soient pas jugés. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu au contraire pour mettre la lumière pour que vous puissiez croire. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Dans les ténèbres, on pourrait dire qu'il est excusable. Dans la lumière, il est inexcusable. Donc, verset 19, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Ah. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai bibliquement et c'est vrai dans votre tête si vous réfléchissez un tout petit peu. Les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal ou des choses détestées par la lumière, quiconque fait le mal et la lumière, et il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Je commence à comprendre pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi on cherche à supprimer la lumière quand on a un agenda qui risque d'être dévoilé par la lumière pour ses défauts, pour son immoralité, pour ses pensées qui n'accordent pas avec la pureté. Ça dévoile même ça. Devant les hommes, je me rappelle très souvent quand j'étais un adolescent et entendant un évangéliste qui prêchait et qui disait « Supposez que tout ce qui passe à travers votre tête comme pensée soit projeté sur un écran devant tout le monde. » Qui c'est qui aimerait que ça soit le cas pour vous? Personne. Et moi non plus. Je ne voudrais pas que ça soit le cas pour moi. Et vous ne voudrez pas non plus. Mais la lumière révèle ça. Parce que la lumière pénètre jusqu'au fond du cœur. Et l'homme, instinctivement, je ne peut-être pas intuitivement, avec une intuition déchue, fuit la lumière comme un voleur fuit un policier, comme une victime court vers le policier, ce que faisaient les prostituées, ce que faisaient les gens de mal repute, ce que faisait qui que ce soit dans cette pièce qui a compris la nature de ce que la lumière de l'évangile a révélé de votre propre cœur. Vous êtes allé pour fuir vers celui qui était là pour purifier et changer où vous fuyez. Il n'y a pas de milieu. On fuit loin d'eux, on court vers, premièrement, comme le publicain devant la justice, à côté du pharisien qui priait, je te rends grâce parce que je fais ceci, je suis comme ça, je donne ma dîme, je jeûne deux fois dans la semaine, et lui qui ne regardait même pas vers le haut, mais qui battait la poitrine, ô Dieu, aie miséricorde sur moi, pécheur, parce que la lumière de la vérité vient de pénétrer mon cœur avec la réalité. Noël annonce, vous qui disiez, nous allons quand même, les problèmes existent, je le sais, mais nous, quand moi je deviens président, si moi j'étais le roi, avec ces personnes autour de moi, si, on allait vaincre. Ça, c'est une folie, un fantasme qui existe dans le cœur de chaque personne. Même la personne la plus bas dans la société a beaucoup de conseils pour le roi qui ne mène pas comme il devrait. Si moi j'étais à sa place, je ne ferais pas ça comme il fait, je ferais ça comme il ne fait pas. Tout le monde se voit supérieur, même dans son complexe d'infériorité. Enfin, personne n'a un complexe d'infériorité. Il a une façon de se présenter devant les autres, et parce qu'il est repoussé en bas, il ne se sent pas inférieur. Il a ses idées de supériorité. Ça ne marche pas jusqu'à présent, mais si jamais ça marchait, je suis supérieur quand même. Et ça, c'est la mentalité de Jean. Et puis, Jésus est venu pour montrer la nouvelle est mauvaise. Pourquoi il arrive le samedi? Pourquoi elle arrive des pompiers? Je vois les lumières qui flashent de bleu. Moi, je suis bien. Non, non, non. On arrive parce que vous êtes malade, vous êtes presque à mourir. Non, non, je suis bien. Non. On ne vous mettrait pas dans un camion. Le pompier, comme ça. Mais le pompier éternel est arrivé. Les lumières sont en train de faire des flashs et voient le lèpre à l'intérieur d'eux-mêmes. Le cancer qui est presque à sa terminaison de péché. Ils se repentent des autres, ils rejettent. Un autre verset de Noël qui n'est pas mentionné comme un verset de Noël. Je crois qu'avec ceci, on va terminer. Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein de ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voici Noël. Dieu qui a dit quoi ? Dieu qui a dit en Genèse chapitre 1 que la lumière soit. C'est ça. Dieu qui a dit la lumière brillerait au sein des ténèbres. Il a banni les ténèbres. Genèse 1. Ce Dieu même a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir connaissance, intelligence obscurcie, ignorance volontaire. Éphésiens 4. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu où, sur la face de Christ. Resplendir la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de la gloire. La gloire de qui? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, comment? Sur la face de ce petit bébé que nous célébrons sa naissance à Noël. Juste pour terminer, je crois, on met les deux versets que je leur ai voulu traiter. Juste quelques petits mots. Un enfant vous est né, verset 5. On a pris verset 2. Verset 8. Trois versets plus tard, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Quatre titres. Admirable conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Cet enfant. Ce fils donné. Donné à l'empire de l'accroissement. Une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Jésus est le roi des rois. Ce petit bébé est le conseiller admirable, le Dieu puissant, le Dieu éternel, le prince de la paix. Vous ne pouvez pas juste être copain avec un bébé comme ça. Vous ne pouvez pas être un croyant, pas pratiquant. Dans le conseiller admirable, merveilleux, qui ne peut jamais donner de mauvais conseils parce qu'il est Dieu puissant, parce qu'il est le Père éternel est devenu petit bébé. Je n'ai pas dit ça. Il est marqué. Le Père éternel est devenu petit bébé. À vous de voir ça. Mais c'est la personne dans la crèche. C'est la personne que vous dites, c'est tout mignon, mais je ne veux pas être trop proche. Non, non, on ne peut pas. Il n'y a pas de neutralité ou de moitié avec cette personne. Les ténèbres sont là. Heureusement, il a reconnu. Vous ne l'avez pas reconnu, mais il a reconnu. La situation était pire que vous en pensiez. Il est venu avec une lumière garantie, un laser, de traiter votre cancer. À fond. Et il vous invite de l'accepter parce que c'est donné, gratuitement. Merci Père Céleste pour Noël, l'incarnation de Dieu. Conseiller admirable qui a traversé toutes choses sans commettre de péché. Il sait exactement à travers lequel ce que nous passions. Aucune religion, aucun mythe ne contient une telle actualité. C'est le cas. Ce bébé. Permets, Seigneur, que nous l'adorons, qu'il devienne pour nous de plus en plus précieux, que nous nous mettons devant cette crèche dans une stupéfaction de révérence et adoration, parce que il a reconnu notre état d'être. Il n'a pas écouté à notre optimisme superficiel et vide. Il a reconnu la situation est pire, pire, pire que nous pouvons jamais constater. Et il est venu avec la souffrance.